qui est derrière cette question. Mais qui est celui-ci? Mais qui est cet homme? Imaginez, à Bruxelles, sous la grande place de Bruxelles, une foule abondante qui scande le nom de quelqu'un. Ils sont fans de cette personne, ils crient son nom, ils chantent, ils dansent, ils font du bruit, ils sont... Ah, il y a peut-être la fanfare qui joue, il y a des enfants qui font des sauts, etc. C'est la fête, quoi. Et puis, les gens tout près là, qui habitent Bruxelles, là-bas, tout près de la grande place, de leur fenêtre, disent, c'est qui cet homme-là? Qui c'est ce type-là? Et ils se regardent les uns les autres. Mais c'est qui cet homme-là qui fait tant de bruit comme ça? Et puis, voilà qu'on leur répond. Eh bien, c'est Paul le Poulpe, le prince du village Mille Morts à Liège. Paul le Poulpe, le prince du village Mille Morts à Liège. Devinez un peu leur réaction. Les Bruxellois, quoi. Ils vont se regarder, s'ils sont condescendants, ils vont dire, ah, il y avait donc un village qui s'appelle Mille Morts. Ah, vous savez même pas qu'il y avait un village qui s'appelait Mille Morts à Liège. Oui, Liège, on connaît, mais un village qui s'appelle Mille Morts, non, pas du tout. Et puis, Paul le Poulpe, je ne connais pas. Mais imaginez l'autre partie. Moins condescendant, plus moqueur. Ils vont éclater de rire, hein. Ah, c'est qui ça? Paul le Poulpe, c'est n'importe quoi. Comment on peut s'appeler comme ça? Et puis, il vient d'où? De Mille Morts? Elle le dit. Un village qui s'appelle Mille Morts. Vous imaginez? Eh bien, figurez-vous, c'était cela la réaction des citadins de Jérusalem. Jésus, Nazareth. Vous savez, je me suis informé, Nazareth, c'était un village inconnu. C'est un village qui n'était pas fort connu. C'était une ville, oui, mais de Jérusalem. Franchement, Nazareth, je ne sais pas c'était où. Vous voyez? Et Jésus, c'est qui ce type? Donc, la réaction, elle est une réaction des gens de la ville. Les gens qui considèrent que finalement, c'est une affaire des ruraux, des villageois, des provinciaux. Un peu comme nous autres, enfin, vous êtes à, Otigny est encore plus près de Bruxelles, ça va encore. Vous êtes un peu moins près provinciaux, mais imaginez que quelqu'un vient de Rulle, un petit, parenthèse, Mille Morts existent, hein. Au cas où vous avez des doutes, hein. Mille Morts existent, hein. Enfin, bref. C'est d'Éric Zander que j'ai appris cette histoire-là. Enfin, bref. Bon, mais imaginez des gens qui débarquent d'un village qui s'appelle Rulle, enfin, la Rulle, dans la province de Luxembourg, et qui viennent à Bruxelles et qui commencent à faire quelque chose. Eh bien, les Bruxellois vont se prendre de haut en disant, mais c'est quoi ça? C'est encore des campagnards qui viennent nous déranger ici. C'est des gens qui n'en savent rien du tout et qui viennent perturber l'ordre. Eh bien, mes amis, la réalité de ce jour-là, c'était cela. Les habitants de Jérusalem étaient perturbés par l'ordre, ils étaient émus, ils se posaient des questions, mais ils ne connaissaient pas ni Nazareth, ni Jésus-Christ. Mais la question fondamentale, est-ce que la réponse qu'ils donnent, la réponse qu'ils reçoivent sur Jésus est-elle correcte? Est-ce que dire que Jésus est le prophète de Nazareth en Galilée, est-ce la bonne réponse? La réponse est non. Non, Jésus est plus qu'un prophète. Et je dirais même plus qu'un prophète dont... si on le considère comme prophète, dont la fonction s'étend par-delà Nazareth. C'est le prophète pour l'humanité entière. Mais Jésus est plus qu'un prophète. Et le limiter à la fonction d'un prophète de Galilée, de Nazareth, même si c'est en province de Galilée, eh bien, ce n'est pas exact. Jésus est plus que cela. Vous savez, l'ironie de l'histoire, c'est quoi? Vous savez que Jésus n'a jamais su faire quoi que ce soit à Nazareth. Vous savez ça? Chaque fois qu'il essayait de prêcher, on le stoppait. Toi, tu n'es pas le fils de Joseph et de Marie. C'est pas avec tes frères que... Et c'est quoi ce cinéma que tu nous fais ici? C'est d'ailleurs de là qu'on a tiré cette fameuse phrase de Jésus, un prophète est méprisé dans sa patrie. Ou qu'on a dit après nul n'est prophète chez soi. Et c'est de là que ça a été tiré parce que Jésus n'a jamais su faire un quelconque miracle dans cette région. Pourquoi? Parce que on ne croyait pas qu'il était prophète. Vous voyez? Et donc, dire ici que c'est le prophète de Nazareth, c'est encore une fausse réponse de la part des gens qui sont ignorantes. Des personnes qui sont ignorantes. C'est des gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas la réponse, qui ne connaissent pas Jésus. Les habitants de Jérusalem sont un peu comme les gens d'aujourd'hui. Ils parlent de Dieu. Ils disent des choses. Mais ils ne savent rien. Ils ne connaissent pas. Ils sont imbus de leur intelligence, de leur supériorité, de leur position de force. Nous habitons en ville. Nous sommes intelligents. Nous avons fait des études. Nous avons... C'est nous, le centre du monde. C'est chez nous que les gens viennent. On vient nous visiter, etc., etc. Et l'on pense que ce que l'on sait est suffisant. On se rend compte que ce n'est pas du tout cela. Mais quelle est la bonne réponse? Quelle est la bonne réponse? Dans ce texte, bien sûr, il y a des éléments qui montrent la bonne réponse à donner à la question « Qui est celui-ci ? Qui est cet homme ?» Nous allons reprendre le texte à ses débuts et la trame de l'histoire. Jésus vient de... Tu peux remettre à partir du premier verset. Jésus vient des monts des Oliviers. Et c'est lui qui met en scène toute son entrée. C'est un scénario que Jésus met en place. C'est lui qui le fait. Il vient du mont des Oliviers et il envoie ses deux disciples aller chercher une ânesse et un ânon. Parenthèse, voyez la puissance de Dieu. Il dit, allez chercher. Si l'on vous demande, on dit, c'est le maître qui le réclame. Vous savez comment c'est écrit le mot maître? C'est écrit d'un mot grec qui veut dire kurios. Le kurios, ça veut dire le maître de toutes choses. C'est le maître absolu. Voilà, c'est le mot. Le maître absolu. Celui qui a la domination sur tout. Qui peut s'offrir ce qu'il veut, comme il veut. Il dit, dites-lui, c'est le maître qui le veut, qui le demande. Juste une parenthèse. Pour montrer que notre Dieu, c'est pas n'importe quel Dieu. C'est un Dieu tout-puissant. C'est un Dieu qui a un pouvoir illimité. Un pouvoir dont on n'a pas toujours conscience. Le maître demande. Et voilà que on lui apporte les animaux. Et ainsi, il commence la procession, il rentre dans la ville. Et les gens qui se rendent compte que c'est Jésus qui vient, et les gens eux-mêmes étendent des vêtements, d'autres vont chercher des branches, et on dit parfois que c'est des palmiers, des branches de palmiers, parce que, ça c'est les traditions qui établissent, c'est pas assez clair, mais en tout cas ce qui est clair, c'est des branches que l'on coupe et l'on met sur son chemin, et les gens crient, et vraiment adorent, louent, Dieu vante Jésus. Et pour Matthieu, celui qui écrit l'évangile, comme d'ailleurs pour l'ensemble des autres évangiles, je vais juste vous dire que ce texte a été écrit cette histoire est racontée par tous les quatre évangélistes. Et donc, tous, ils font allusion à une prophétie, une ancienne prophétie. L'acte que Jésus pose fait penser à une prophétie qui s'accomplit à travers lui. Et cette prophétie se trouve en Zacharie, chapitre 9. Nous allons le lire, le verset 9 au verset 10. Regardez. Et on peut comparer avec ce qui est écrit dans les évangiles. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Fille de Sion, c'est le nom de Jérusalem, en fait. Pousse de cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem et les arcs de guerre seront retranchés. Il annoncera la paix aux nations et il dominera d'une mer à l'autre depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce qui est frappant, c'est que tous les évangélistes sont d'accord avec cette idée que, effectivement, il est un roi qui est monté sur un âne. Et ils sont tous d'accord avec cette idée-là. Et c'est important. Ce n'est pas anodin. Vous savez que dans le Moyen-Orient, dans le Proche-Orient, pardon, ancien, au temps de Jésus, eh bien, quand les personnes puissantes faisaient leur entrée dans une ville, ils entraient souvent montés sur un âne. Il y avait une différence entre entrer dans une ville montée sur un âne et entrer dans une ville montée sur un cheval. Quand on entre avec montée sur le cheval, on vient prendre la ville par la force. Ce n'est pas avec l'adhésion des gens. On n'est pas attendu. On n'est pas souhaité. On vient en conquérant. Mais quand on monte sur un âne, symboliquement, dans cette époque-là, dans le Proche-Orient, eh bien, c'est une façon de rentrer dans la ville avec le consentement, comme quelqu'un qui est attendu. C'est pourquoi le peuple voit tout de suite le sens de la chose. Lorsqu'ils voient Jésus monter sur l'âne, ils comprennent tout de suite que, voilà, il va maintenant entrer dans sa ville comme le roi. Donc l'âne, c'était la monture traditionnelle des rois. Et dans le passé, il y a eu plusieurs souverains qui ont utilisé l'âne. On a le roi Saül, par exemple, lorsqu'il s'est installé dans la royauté en Israël, il était monté sur un âne. David aussi. La plupart des juges et même de leurs enfants étaient souvent montés sur un âne pour rentrer dans la ville. En fait, donc, en montant sur l'âne de cette façon-là, Jésus affirme qu'il est le roi. Il affirme qu'il est le descendant du roi David. Ce n'est pas donc par hasard qu'il fait ça. Il fait ça pour affirmer sa royauté. À la question, qui est celui-ci? La réponse, c'est, il est le roi. C'est Jésus, le roi des rois. Mais ce n'est pas tout. Il choisit aussi l'époque. Vous remarquez que au moment où il le fait, c'est quand? C'est juste à l'approche de Pâques. C'est à l'approche de Pâques que Jésus fait cela. Je vous ai dit, c'est la dernière semaine pour lui sur la terre. Et donc, cette approche de la fête de Pâques, de la période de Pâques, n'est pas aussi quelque chose d'anodin parce que Jésus veut affirmer ainsi son caractère de Messie. Non seulement il est roi, mais il est aussi le Messie. Il se présente dans la ville comme celui qui vient la sauver. Le Messie, c'était celui que le peuple d'Israël attendait. C'était le oint de Dieu, celui que le chargé par Dieu de venir sauver le peuple, de sauver la nation juive. Et lui, en le faisant dans cette période-là, il a voulu faire éveiller la tradition dans les enseignements des Juifs qui disaient que justement le Messie viendrait au moment où nous serons en train de fêter Pâques et il entrera dans la ville sur un âne. Et donc, là, il donne le signal que c'est lui le Messie. Et c'est pour cela que la foule est dans la joie. C'est pour cela qu'ils étendent leurs vêtements. Ils sont contents parce qu'ils veulent rendre l'hommage royal. Mais Est-ce que ça a la même signification? Non. Il y a un malentendu. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que la foule, elle est contente. Elle est contente d'accompagner Jésus. Parce que elle attend que Jésus exerce sa royauté messianique à la manière qu'on attend des Juifs, c'est-à-dire il va aller prendre le pouvoir par la force, il va renverser l'ordre romain, il va instaurer le nouvel ordre. Là, il y a un malentendu, parce que ce n'est pas ce que Jésus compte faire. Ce n'est pas le travail pour lequel Jésus fait et vient. Mais on voit quand même qu'il y a quelque chose de significatif qui montre qu'il est question de salut. Regardez comment il parle. On peut retenir sur le texte. Il dit « Béni soit Hosanna ». Vous savez ce que ça veut dire « Hosanna » ? Hosanna, ça veut dire, littéralement, c'est « accorde-nous le salut » ou bien « sauve, je t'en prie ». Mais en réalité, c'est un terme, quand c'est utilisé ici, c'est juste un mot de louange. Comme on le fait aujourd'hui, quand on dit « Hosanna » aujourd'hui, ce n'est plus dans la forme de la prière, mais c'est dans la forme de la louange. La louange, justement, liée au fait que nous sommes reconnaissants du salut que Dieu a apporté. Hosanna, Oshi, Anna, vient justement, le mot Anna, avec le mot grâce, le mot salut, vient dans le même jargon, ça concerne le salut. Et quand il s'écrit Hosanna, c'est bien pour montrer que ils sont heureux, verset 9, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Donc ils sont conscients, quelque part, qu'il y a plus que simplement un prophète. C'est véritablement le fils de David, c'est-à-dire le roi. Donc à la question, qui est cet homme? On répond, c'est le roi des rois, c'est le Messie, celui que Dieu envoie pour venir sauver. Et la foule, bien sûr, elle se trompe de projet, parce qu'elle croit que Jésus va aller les libérer, mais en réalité, Jésus va les libérer, mais d'une autre façon. Ça ne sera pas comme ils s'attendent. Vous savez, ce texte est très intéressant, parce que vous remarquerez que le début du texte commence avec le mont des Oliviers. Il vient du mont des Oliviers et il descend vers Jérusalem. Dans la prophétie de Zacharie, il est question aussi du Messie qui viendra sauver Israël et il viendra du mont des Oliviers. Mais en réalité, cet aspect des choses concerne le jugement que le Messie va exercer sur les populations, sur le peuple, sur les gens qui se sont rebellés contre lui. Je ne sais pas si vous êtes déjà intéressé sur tout ce qui s'est passé sur la montagne des Oliviers. Amusez-vous une fois à lire, à relever tous les événements en rapport avec le mont des Oliviers. Vous remarquerez qu'il n'y a que des événements tristes qui se sont passés sur le mont des Oliviers. Jésus a maudit un figuier. Il y a eu plein d'événements qui sont liés avec le mont des Oliviers, dont le dernier est l'agonie de Jésus à Gethsémané. Le mont des Oliviers symbolise un peu le lieu du jugement. Jugement exercé par Dieu. Et quelque part, le roi qui vient, qui descend du mont des Oliviers, il n'est pas seulement celui qui vient sauver. Il est aussi celui qui vient juger et condamner ceux qui vont rejeter le salut. Il y a cette double dimension de la majesté, parce que il est roi, et le roi exerce pleinement sa fonction. Le roi est à la fois celui qui exerce la justice, celui qui exerce bien sûr l'administration, l'armée. Et donc, en tant que juge, il est aussi celui qui exerce les jugements. Un roi messianique, mais un roi qui est aussi un roi qui est prêt à juger. Alors, nous commençons notre semaine pascale. Et je voudrais vous inviter à avoir cette pensée que durant cette semaine, il ne s'agit pas d'un prophète. C'est plus qu'un prophète. Il ne s'agit pas de quelqu'un de local, qui a fait une œuvre locale, en Nazareth en l'occurrence, non. Il s'agit de quelqu'un qui fait l'œuvre pour toute l'humanité. Il s'agit de plus qu'un prophète. Il s'agit du roi des rois. Il s'agit du Messie, de celui que Dieu a envoyé. C'est le véritable sauveur. C'est le véritable sauveur qui se donne. Et prendre conscience, alors que nous voulons véritablement entrer dans cette semaine, prendre conscience que il est celui qui fixe la ligne rouge. La ligne entre le salut d'un côté et le jugement de l'autre. C'est ce que Jésus dit lui-même. Hein. Il dit, je ne suis pas seulement venu apporter la paix, je suis venu apporter la guerre, je suis venu apporter le feu. Hein. Parce que quelque part, le rejet de son salut entraîne évidemment le jugement de la part des hommes. Jésus vient, il est vrai, lorsqu'il rentre à Jérusalem, il rentre avec des dispositions de paix. C'est pour ça qu'il monte sur un ânon. Il a les dispositions de paix. Il veut la paix. Il vient pour chercher la paix. Il vient pour permettre que la paix soit possible avec Dieu. Ce matin, je vous invite à entrer dans cette semaine avec ce cœur qui est pleinement reconnaissant. Reconnaissant parce que Dieu a tout accompli. Il a tout fait. Il a tout fait. Il est celui qui a réalisé cette œuvre. Pour nous, c'est comme si nous vivons ces choses-là un peu en différé, en quelque sorte. Nous sommes déjà sauvés et nous les vivons comme des réalités qui ont déjà eu lieu auparavant. Alors vivons-les véritablement comme cela. Regardons nos cœurs. Qui est cet homme pour nous? Quelle est la place de cet homme dans nos cœurs? Regardons-le comme, posons-nous la question, qui est Jésus pour moi? Comment vit-il dans mon cœur? Et qu'ainsi, durant cette semaine, il vive. Non pas comme un simple prophète, non pas comme ces ignorants de Jérusalem, mais comme véritablement les gens qui ont bien compris qui il est véritablement, le roi des rois, le seigneur de ma vie, le Messie qui est venu me sauver. J'aimerais aussi que pour nous la semaine soit une semaine qui est dans la joie, malgré le respect profond pour les souffrances de notre Seigneur, malgré la considération profonde pour le fait qu'il a souffert pour nous. Soyons au fond de nous dans la joie, parce qu'il a tout accompli, il a tout réalisé. Peut-être nous anticipons ainsi déjà Pâques, la résurrection, mais que notre attitude soit celle des personnes qui sommes dans la joie, parce que Jésus a tout accompli. Mais en même temps, des personnes qui pensons vraiment à cette souffrance qui va endurer. Le malentendu sera ainsi levé. On ne sera pas comme le peuple qui a espéré, cru, souhaité quelqu'un qui les délivre par la guerre, par la force. Mais nous sommes de ceux qui pensons que la souffrance était un chemin obligé. Le calvaire était un chemin obligé pour que nous puissions être sauvés. Alors que tout cela nous anime durant cette semaine et que ainsi cela nous fasse avancer. Prions. Seigneur, merci pour la réalité que dans cette parole, tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et c'est ce que nous n'avons pas arrêté de chanter depuis le début de ce culte. Nous avons dit que tu es le Seigneur. Ma prière est que tu sois véritablement aussi notre Seigneur personnel dans notre vie de tous les jours. Que tu règnes, Seigneur. Alors que nous commémorons ces événements autour de ta mort et de ta résurrection, nous commémorons ces événements autour de toutes ces souffrances que tu as endurées pour le salut, pour notre salut. Nous voulons, nous, Seigneur, en réponse à cela, vivre en te reconnaissant comme le maître de tout, le Kurios, et vivre de façon à ce que nos vies soient complètement, entièrement soumises à toi, attachées à toi, et qu'ainsi, notre semaine pascale, puis sûrement et certainement notre fête de Pâques, soit un événement, Seigneur, important dans notre vie parce que il trace et manifeste notre propre réalité spirituelle. Accorde-nous cette grâce au nom de Jésus. Amen.